Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, cette enquête du New York Times qui dévoile les conditions de détention terribles des enfants migrants aux États-Unis, séparés de leur famille, des enfants qui sont privés de tout, en plus de leurs parents. Le journal qui parle de cruauté et reprend le terme de camp de concentration, on en parlera dans un instant avec Stéphanie Schuller. On reviendra sur la situation politique en Haïti, plus que jamais dans l'impasse. L'opposition a présenté un plan pour diriger le pays sans l'actuel président Jovenel Moïse. Et puis on va revenir sur la Gay Pride à Sao Paulo ce week-end dans un contexte de peur pour la communauté LGBT brésilienne depuis l'élection du président Jair Bolsonaro. Et on commence donc par la revue de presse des Amériques. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Donald Trump a reporté ce week-end une vague d'arrestations de familles de migrants clandestins qui devait débuter hier dans une dizaine de grandes villes américaines, expliquant avoir pris cette décision à la demande de l'opposition qui avait vivement critiqué le caractère cruel de ces expulsions. Si dans deux semaines, démocrates et républicains ne parviennent pas à présenter une solution commune pour la crise migratoire, les expulsions débuteront, a prévenu le président Donald Trump. Stéphanie Schuller, c'est dans ce contexte que le New York Times publie aujourd'hui une tribune particulièrement poignante.
Oui, absolument. Écrit par l'un des éditorialistes du quotidien, elle jette une lumière crue sur l'apparente indifférence des Américains face au drame des enfants migrants séparés de leur famille et enfermés dans des centres de détention par l'administration Trump.
Oui, les derniers rapports concernant les conditions de vie de ces enfants migrants font en effet froid dans le dos, Stéphanie.
Et au moins 7 enfants sont morts dans ces centres de détention tenus par l'administration Trump, rappelle le New York Times. Des milliers d'enfants dorment par terre, sans couverture, la lumière allumée toute la nuit, alors que la privation de sommeil est considérée comme un acte de torture. L'éditorialiste cite un article de l'agence AP qui a pu se rendre la semaine dernière dans l'un de ces centres situés au Texas où sont détenus 250 enfants. Un petit garçon de 2 ans veut être dans les bras tout le temps. Quelques filles âgées de 10 à 15 ans disent qu'elles font de leur mieux pour nourrir et apaiser le petit qui leur a été remis par un gardien, le t-shirt imbibé de mucosité et ne portant pas de couche. Une fillette guatémaltèque âgée de 14 ans s'accroche à deux petites filles sur ses genoux. J'ai besoin de réconfort. Je suis plus grande qu'elle, mais je suis aussi une enfant. Toute personne qui n'a pas le cœur brisé à la lecture de cet article est un monstre, lance le New York Times. Et pourtant, l'année dernière, Fox News a comparé les centres de détention pour enfants à des camps d'été. Non, ce ne sont pas des camps d'été. Ils sont plus proches de ce que Alexandria Ocasio-Cortez a appelé des camps de concentration, écrit l'éditorialiste.
Voilà, et pour cette remarque, l'élu démocrate à la Chambre des représentants a essuyé de nombreuses critiques. Stéphanie, nombreux étaient ceux qui lui reprochaient d'utiliser un terme trop lié aux horreurs de l'Holocauste.
Oui, tout à fait. Cette remarque a lancé un grand débat, en effet, aux États-Unis. Et finalement, c'est le terme plus neutre de centre de détention qui semble l'avoir emporté dans beaucoup de médias. L'éditorialiste du New York Times, en tout cas, n'est pas du même avis. Quel que soit le langage flou que nous utilisons, les États-Unis sous Donald Trump sont en train de commettre des actes indéfendables d'une cruauté indescriptible. Donald Trump gère bel et bien des camps de concentration à la frontière, s'exclame le quotidien avant de conclure. Je pense qu'un jour, nous réfléchirons à cette époque de l'histoire américaine où les enfants migrants ont été séparés de leurs parents, certains enfermés dans des cages. Nous nous dirons alors à nous-mêmes comment cela était-il possible? Pourquoi n'étions-nous pas tous les jours dans la rue pour exiger la fin de cette atrocité? Comment avons-nous pu simplement poursuivre nos vies?
On reste aux États-Unis, Stéphanie, avec les tensions avec l'Iran. Donald Trump a annulé en dernière minute des frappes de représailles contre Téhéran. C'était il y a 3 jours. L'Iran qui a abattu un drone américain jeudi dernier. La tension est très forte entre les deux pays et Washington a promis d'annoncer aujourd'hui de nouvelles sanctions majeures contre Téhéran. Une situation qui s'envenime depuis que les États-Unis ont décidé il y a un an de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Alors un nouvel accord est-il envisageable aujourd'hui? La réponse de Robert Mallet, ancien conseiller de Barack Obama pour le Moyen-Orient et président du Centre d'analyse International Crisis Group.
Je pense qu'il a une politique aujourd'hui qui va à l'encontre de ses intentions. Ses intentions, c'est de ne pas faire la guerre, mais sa politique de pression accrue sur l'Iran risque fort d'y mener. Pour cet accord nucléaire un peu illusoire auquel fait allusion le président Trump lorsqu'il dit qu'il veut un accord meilleur, on peut difficilement imaginer l'Iran aller beaucoup plus loin, surtout si elle a en face d'elle une administration qui est assez rigide et inflexible pour le moment. Mais on peut l'imaginer, il faut l'espérer, que l'Europe et d'autres proposent à ces deux pays d'abord que les États-Unis assouplisse un peu sa position pour que l'Iran puisse respirer un peu et ne se sente pas acculé, et ensuite que l'Iran fasse un geste de son côté. Et puis on peut imaginer des négociations, mais je ne retiendrai pas mon souffle parce que pour l'instant, la dynamique, elle est tout à fait contraire.
Robert Mallet, le président du Centre d'analyse International Crisis Group, au micro de Marie Normand. Stéphanie Schuller, en Haïti, la crise politique et socio-économique s'enlise.
Depuis les manifestants contre la corruption qui avaient mobilisé le 9 juin dernier des milliers de citoyens à travers l'ensemble du territoire national, le pays vit dans un climat d'incertitude caractérisé par des mouvements de protestation spontanés, constate le National. Une inquiétude également exprimée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le CSPJ craint que les derniers mouvements de protestation n'entravent le développement économique et social du pays et mettent en péril la souveraineté et les acquis démocratiques. Le Conseil se dit conscient que la lutte contre la corruption est le principal motif des derniers jours de protestation. C'est pourquoi les membres de cet organisme, en charge de veiller sur l'indépendance de la justice haïtienne, appellent à l'avènement d'un nouvel ordre moral et de justice pour prévenir, mais aussi sanctionner la corruption dans toutes ses dimensions, écrit le National.
Et pendant ce temps, l'opposition politique haïtienne réclame toujours le départ du président Jovenel Moïse, indexé dans le dernier rapport sur le scandale de corruption Petrocaribe.
Et ses élus d'opposition, rejoints par des syndicalistes, des étudiants et certains pétro-challengers, ont présenté un plan pour diriger le pays. Pour l'essentiel, résume le Nouvelliste, ce plan prévoit le départ du président Jovenel Moïse, son remplacement par un juge de la Cour de cassation, la nomination d'un premier ministre issu de l'opposition, la formation d'un gouvernement incluant tous les secteurs et la création d'une autorité nationale de transition en remplacement du Parlement. Ce plan, poursuit le quotidien, prévoit aussi d'organiser une conférence nationale souveraine, l'organisation du procès Petrocaribe et une nouvelle constitution, un plan qui sera en vigueur jusqu'au 22 février 2022, date à laquelle la transition passerait le pouvoir à des élus.
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques.
RFI, les voix du monde.
On part à présent au Brésil. La communauté LGBT a investi les rues de Sao Paulo hier. Des centaines de milliers de Brésiliens ont défilé pour la Gay Pride, l'une des plus importantes au monde. Et si la Cour suprême a voté récemment la criminalisation de l'homophobie, les minorités LGBT craignent plus que jamais pour leur vie. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le président d'extrême droite brésilien, au discours ouvertement homophobe. Le reportage de Sarah Cozzolino à Sao Paulo.
Jamais les rues n'auront été occupées par nos corps vulnérables, par nos corps dissidents qui désormais s'auto-organisent pour combattre cette politique génocidaire, cette politique réactionnaire présente au Brésil.
Dans le centre de São Paulo, c'est le premier rassemblement transgenre sous le gouvernement de Jair Bolsonaro.
C'est pour célébrer le fait qu'on existe, mais aussi pour fêter notre communion, notre union.
Miranda Luz, 23 ans, avoue qu'elle sort rarement de ce milieu LGBT. Le Brésil détient le triste record de meurtres de personnes LGBT. Une personne est tuée toutes les 16 heures ici.
Je me sens bien plus en danger. J'ai peur quand je marche dans la rue. Je regarde toujours qui est autour de moi. Dans certains lieux, à certains horaires, je suis toujours accompagnée. C'est très important. Peut-être armée même, si c'est possible. Aujourd'hui, c'est ma vie ou la leur.
La Cour suprême vient de voter la criminalisation de l'homophobie. Pour la députée de l'État de São Paulo, Erika Hilton, c'est une avancée certes, mais qui est loin d'être suffisante.
On a besoin de commencer avec d'autres moyens, par la construction de politiques publiques, un débat avec la société civile, un débat sur le genre et la sexualité à l'intérieur des écoles et une révision complète du système carcéral au Brésil, qui incarcère surtout des populations noires, pauvres et de la périphérie des grandes villes. Il faut une construction encore plus grande pour rompre avec la LGBT-phobie, avec les crimes de haine et la vulnérabilité sociale de ces groupes.
La sphère privée est souvent le premier obstacle que doivent affronter les personnes homo et transsexuelles. Louise Tarazoli est une femme trans. Aujourd'hui, elle semble épanouie avec son rouge à lèvres écarlate, son manteau à fourrure et sa moustache.
Ça a été difficile pour moi. Mes parents ne m'acceptent toujours pas. J'habite encore avec eux, mais je pense que je suis un cas à part. Parce que je ne me suis pas laissée abattre par ça. Je continue à être moi-même, mais en dehors de chez moi.
Au cœur de la capitale économique, la Casa accueille 20 jeunes expulsés de leur famille en raison de leur orientation sexuelle. Angelo Liberato est un des bénévoles de la Casa. Il protège l'anonymat des personnes accueillies.
Les personnes qui viennent ici ont vraiment besoin d'aide. Cette maison arrive en dernier recours pour eux. C'est leur solution pour continuer à vivre.
Alors pour les résidents et tous ceux qui en ressentent le besoin, le refuge organise des cours de Krav Maga.
Si vous êtes capable d'infliger à votre agresseur de façon rapide un coup qui déclenche douleur, étourdissement ou blessure, vous réussirez à interrompre l'agression et à fuir.
Selon un dernier sondage, plus de la moitié des personnes LGBT dit avoir vécu au moins une agression verbale ou physique depuis l'élection en octobre dernier. Daniel Torquato a commencé les cours d'autodéfense à ce moment-là.
Aujourd'hui, je me sens bien mieux préparé pour réagir à n'importe quelle situation de violence. Bien entendu, je sais que j'ai des limites, que je ne suis pas tout puissant, mais je me sens beaucoup plus confiant, beaucoup plus en sécurité. Je me suis jamais aussi bien senti à l'aise avec mon corps, avec mon mode de vie, quand je me promène par exemple dans la rue avec qui je veux. Je pense que c'est bien plus qu'apprendre des techniques. J'ai changé d'état d'esprit.
La demande pour ce type de cours a explosé depuis 6 mois. Même si la Cour suprême considère désormais l'homophobie comme un crime, le président a récemment déclaré que le Brésil n'était pas un pays d'accueil pour les gays. Sara Cozzolino, São Paulo, RFI.
Aux États-Unis, Miami va accueillir cette semaine 2 jours de débats télévisés entre les principaux candidats démocrates à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle de 2020. La campagne officielle commence en février prochain, mais déjà les candidats sont en pré-campagne avec des débats autour notamment d'une thématique qui devrait prendre une place importante dans les mois qui viennent, la santé et l'assurance maladie. Un dossier signé Thomas Arms à Houston.
Tout le monde dans ce pays devrait avoir une assurance maladie.
Je suis prête à considérer la couverture maladie pour tous, mais je pense que la première chose à faire, c'est de continuer le travail du président Obama en proposant en plus une assurance de l'État.
Le but est de garantir que l'assurance maladie pour tout homme, femme ou enfant soit un droit et non un privilège. Et je suis fier d'avoir mené le combat pour un programme de couverture maladie pour tous.
En voici 3, Julian Castro, Amy Klobuchar et Bernie Sanders. 3 parmi les 24 démocrates candidats à l'investiture. Mais en fait, ils ont tous ce sujet à la bouche, la couverture médicale. Et à l'esprit, l'Affordable Care Act, cette loi ambitieuse portée par Barack Obama est violemment combattu par les républicains. Connue sous le nom d'Obamacare, cette loi, entrée en application en 2014, avait pour but de permettre au plus grand nombre de bénéficier d'une couverture santé. Concrètement, tout citoyen devait souscrire une assurance santé auprès d'un assureur privé ou via son employeur. En contrepartie de cette obligation, l'État fournissait des aides fiscales à ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer cette couverture. Mais certains candidats démocrates veulent maintenant aller plus loin.
Nous avons un certain nombre de candidats qui aimeraient une proposition à la Bernie Sanders de couverture santé pour tous qui éliminerait complètement toute assurance privée et doterait tout le monde d'une assurance de l'État.
Viviane Ho est professeure d'économie et de médecine et titulaire de la chaire d'économie de la santé au Baker Institute for Public Policy de Houston.
Il y a d'autres candidats qui ne veulent pas voir le système actuel disparaître. Ils veulent conserver l'assurance fournie par les entreprises, car plus de 50% des Américains sont assurés par leur employeur. Ils veulent préserver ce système, mais ils soutiennent aussi l'instauration d'une assurance maladie pour ceux qui n'ont pas accès à ce privilège. D'autres candidats veulent avancer de façon plus progressive. On n'assure pas nécessairement tout le monde, mais on protège plus de personnes que maintenant. Dépensons un peu plus pour permettre aux assurés de plus de 50 ans de bénéficier du programme de couverture maladie de l'État. Cela coûtera plus, mais pas autant que d'assurer toute la population qui n'a pas d'assurance.
L'Obamacare avait permis de faire chuter de 18 à 11% le nombre d'Américains sans assurance maladie. Mais depuis 2016 et l'élection de Donald Trump, ce nombre grimpe à nouveau. Actuellement, près de 14% des Américains n'ont aucune couverture santé. Alors parmi les candidats démocrates, certains défendent l'Obamacare et veulent y ajouter une dose d'assurance maladie gérée par l'État. Mais la moitié d'entre eux, 12, sont en faveur du Medicare for All, un programme d'assurance maladie entièrement géré par l'État et accessible à tous, un peu comme en France. une option qui coûterait plus de 2000 milliards de dollars d'ici à 2022.
La plupart des gens pensent que la couverture santé pour tous n'est pas si chère et que c'est une option qu'ils peuvent choisir. Mais si vous regardez attentivement, ça n'est pas faisable. 70% des Américains sont contents avec leur couverture maladie actuelle. Alors, que faites-vous dans cette situation?
La question divise chez les démocrates. Alors, le débat télévisé des 26 et 27 juin permettra-t-il d'y voir plus clair? Viviane Ho.
Le problème, c'est que vous ne pouvez pas expliquer en une réponse de 3 minutes pourquoi le Medicare pour tous est difficilement faisable. Ce sera donc intéressant de regarder le débat pour voir comment ils vont faire.
Pour plusieurs candidats démocrates, si leur parti force les Américains à cotiser un système de santé géré par l'État, eh bien Donald Trump sera réélu et sur un fauteuil de surcroît. Thomas Arms, Houston, RFI.
Et c'est l'heure de l'actualité des Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, menacée en permanence par des coulées de boue, la ville martiniquaise du Prêcheur va purement et simplement être déplacée et reconstruite.
Oui, alors il ne s'agit pas évidemment de l'intégralité de la ville du Prêcheur, cette commune située à l'extrême nord-ouest de la Martinique, juste en dessous de la tristement célèbre montagne Pelée, mais des quartiers perpétuellement menacés par les lahars, ces coulées de boue d'origine volcanique. Le projet de déplacement et de reconstruction a été présenté hier à la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon. Reportage Jean-Baptiste Anatole.
Soutenu par l'État et par un laboratoire spécialisé, il a été élaboré tout un programme d'urbanisation qui consistera dans un premier temps à déplacer l'école. Ensuite, il s'agira de déplacer 300 habitants actuellement menacés par le lard. À travers cette opération, il s'agit pour le gouvernement d'imaginer la ville et l'architecture de demain dans nos régions d'outre-mer. Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à l'écologie.
Au lieu de subir les risques, se dire ces risques, c'est l'opportunité de trouver la bonne manière d'habiter dans les Antilles face à ces risques et d'inventer plein de solutions nouvelles, de les proposer aux habitants parce qu'à un moment, c'est les habitants et les élus qui choisissent.
Pour Marcelin Nadeau, le maire du Prêcheur, c'est une reconnaissance de l'État.
C'est un projet qui vaut pour le Prêcheur. Pour nous, c'est vital, mais c'est un projet aussi qui est très utile à la Martinique parce que c'est un projet qui se veut innovant et ce sont autant de pistes de réflexion pour apporter justement des solutions à notre forte exposition, la forte exposition de tous les territoires martiniquais à beaucoup de risques, et notamment les risques littoraux qui sont par lesquels nous sommes très concernés au Prêcheur.
Ce projet place le Prêcheur et la Martinique sur un nouvel axe de développement. Il risque de coûter très cher à l'État.
On reste en Martinique où s'est achevée hier la semaine de l'agrotourisme, une semaine qui a permis à différents agriculteurs du département de faire la démonstration qu'on peut cultiver sans pesticides. Exemple avec le Jardin de la Santé à Sainte-Anne, et là nous sommes dans l'extrême sud de la Martinique, un jardin où le bio n'est pas un vain mot, et on retrouve Jean-Baptiste Anatole.
On se sent en phase avec la nature. Je ne vois pas de machine, c'est parfait.
Mais ça se passe très bien. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Surtout comment manger sainement.
Au Jardin de la Santé à Sainte-Anne, on est en plein dans le bio. Ici, tout est bio et tout est consommé sur place. On est en total contact avec la nature. Être agriculteur bio, c'est respecter certaines valeurs. Malik Malsa, agriculteur bio à Sainte-Anne.
L'agriculture biologique, c'est possible en Martinique, hein, si on respecte un certain nombre de choses et si on rentre donc dans les valeurs, si on retrouvait aussi donc ce que nos parents, nos grands-parents faisaient, donc c'est retourner à des valeurs sûres.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain. Merci beaucoup, Benoît Ferrand, pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, 14h10, heure de Paris, midi 10, en temps universel. Restez avec nous dans un peu plus de 30 secondes. Maintenant, le retour de l'actualité sur Radio France Internationale.